Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keragir et je suis ravi de vous parler aujourd'hui, sans tonalité ni arrière-pensée complotiste, de l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Et oui, chers amis, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit rappel de maints épisodes qui ont peuplé cette chaîne de podcast à une époque où on ne parlait pas du tout de tout ça. Et j'en garde une certaine fierté. Mais en fin de compte, est-elle bien placée? On en parlera tout à l'heure. Ce que nous allons découvrir, c'est à travers les travaux de Ray Dalio, l'une des grandes éminences de la finance internationale, nous allons parler de ce livre dont il était question déjà dans des épisodes antérieurs, qui désormais est disponible à l'achat, description de ce podcast pour avoir le lien, et qui nous parle tout simplement de comment tout un système finit tôt ou tard par basculer, à travers quoi la simple analyse factuelle de la data historique qui est à portée de main. Et c'est ainsi que, aussi, je ne pourrais éviter faire un clin d'œil à ce très cher Marc Alevi, dont les travaux confirment aussi tous ces dires. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, car maintenant, nous allons avoir une cascade d'épisodes qui vont venir nous parler de nouveau leadership dans un nouveau monde. Le monde a désormais basculé, et plus que jamais, le moment est venu de réinventer le leadership, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Si vous vous rappelez, nous avons parlé pendant un certain temps dans des épisodes de cette même chaîne de podcast de Ray Dalio, l'une des grandes éminences du monde de la finance. En fait, on pourrait dire qu'ils sont une poignée. Et parmi cette poignée, il y en a deux qui ressortent. Pourquoi ces hommes ressortent-ils? Il y a Warren Buffett, Ray Dalio. Pourquoi? Parce que ce sont les extrêmement rares exceptions, elles se comptent sur les doigts d'une main, d'accord? Les rares exceptions qui, dans l'épreuve du temps, à travers leur portefeuille, ils ont performé mieux que la moyenne historique du S&P 500. D'accord? C'est comme une sorte de CAC 40 américain, ok? Donc, si vous mettiez de l'argent, il y a 30 ans, dans le S&P 500, et je pense que la réalité est probablement équivalente avec le CAC 40, vous mettiez de l'argent il y a 30 ans là-dedans, et que vous achetiez juste des actions du portefeuille global du S&P 500, okay, et que vous vous asseyez dessus, vous ne faites rien d'autre qu'attendre. Alors, en termes de connaissances d'investissement, d'achat boursier, zéro. Juste, vous achetez les plus grandes entreprises aujourd'hui, vous mettez ça, vous oubliez, vous vous asseyez dessus, vous laissez faire le marché. Si 30 ans plus tard, vous vendez tout ça, vous allez faire une certaine performance. Une performance à la hausse, parce que le marché a augmenté. Et c'est juste une moyenne annuelle qui s'est lissée sur 30 ans et qui fait que votre capital initial, il a gagné beaucoup par rapport à ce que vous aviez à l'origine. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, quand vous faites appel à un gestionnaire de patrimoine, ce que vous voulez, c'est qu'il vous donne des solutions qui vous permettent d'obtenir des résultats meilleurs que celui dont on vient d'écrire. Parce qu'il suffit de mettre de l'argent sur les comptes de la bourse et s'asseoir sur ses fesses pour attendre, et que ça, c'est la meilleure performance qu'on puisse vous offrir, vous allez vous dire, ben, finalement, il n'y en a pas pour longtemps pour les gestionnaires de patrimoine, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, pourtant, l'histoire, ce qu'elle prouve, c'est qu'il n'y a que deux bonhommes, un petit peu plus, mais ils sont très peu nombreux, dans le monde dont la performance dépasse l'épreuve du temps. C'est-à-dire que c'est des vieux bonhommes, bien évidemment, c'est pas des genoux. Ils sont là depuis très longtemps, ils en ont vu de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres, des époques de croissance et de grandes crises, de guerre et de paix. Et à travers toutes ces périodes, constamment, d'année en année, ils surperformaient par rapport à la moyenne du marché. À peine une poignée. Tout le reste, aussi douloureux soit-il, tout le reste, quand ils lissent leurs résultats d'année en année pour passer l'épreuve du temps, il y avait des très bonnes années où ils surperformaient le marché et d'autres années où ils sous-performaient par rapport à ce marché-là. Et dans le bilan moyen, presque 100% de ces gestionnaires de portefeuille sous-performaient par rapport à la moyenne du marché. Là, ça fait mal. Donc, Ray Dalio, quand il parle, on l'écoute. D'ailleurs, si vous aimeriez qu'il fasse partie de son portefeuille de clients, d'ailleurs, il n'en prend plus des clients, mais le ticket d'entrée était minimum de 5 milliards. Voilà, ça vous donne un peu la couleur. Bien évidemment. On sait qu'avec lui, on va gagner. Bon, bref. Je vais arrêter mes diatribes, je ne veux pas me perdre dans d'autres considérations que celles qui nous ramènent aujourd'hui, c'est le changement d'ordre mondial. Alors pourquoi je vous ai fait cette présentation de Ray Dalio? C'est tout simplement parce qu'avec tout ce que je vais vous raconter, s'il y en a un que l'on ne va pas traiter de complotiste, c'est bien lui. Eh bien, il ose, dans son dernier bouquin, publié en septembre, aujourd'hui disponible en anglais, auprès de quiconque veuille l'acheter, chez Amazon ou, mieux encore, votre libraire favori, The Changing World Order, le changement d'ordre mondial. Le terme « ordre mondial » est un terme qui a été exclusivement dédié aux complotistes jusqu'à aujourd'hui. Et Ray Dalio, vas-y que boum, il s'impose. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'il fait un travail très similaire au travail qu'a fait Marc Alevi dans son parcours d'historien, chercheur, physicien, philosophe, etc., etc. Et c'est que il a regardé l'histoire, il a analysé l'histoire et il a tout simplement établi des conclusions par rapport à comment l'histoire inlassablement se répète et quels sont les indicateurs de cette répétition chronique que j'ai l'habitude d'appeler le cul-de-sac karmique. Comment se fait-il que, de siècle en siècle, l'humanité, donc nous, répétions inlassablement les mêmes erreurs? Eh bien oui. Donc, Ray Dalio est venu analyser ça, tout comme l'a fait Marc Alevi. Et aujourd'hui, comme le livre de Ray Dalio est publié, je vais refaire un petit focus. Mais je vais rappeler certains éléments essentiels, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons vécu 2 ans plus tard que après la publication de ces épisodes sur les travaux de Dalio et l'annonce du livre dont je vous parle. Bref, ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une accélération de la descente aux enfers qui précède un changement de paradigme. Ray Dalio n'utilise pas le terme paradigme, il parle d'un ordre mondial parce que lui, il regarde tout ça à travers une vision économique, financière et politique. L'histoire fonctionne par cycle. Cela, Marc Alevi nous l'a prouvé mathématiquement. Nous vivons des cycles qui se répètent inlassablement. Et ces cycles sont déterminés par des phases de croissance, de plénitude, si je peux l'appeler comme ça, et de déclin. Un cycle mourant est remplacé par un cycle naissant. Mais nous ne sommes pas dans une sinusoïde. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'un cycle arrive en bas pour qu'un nouveau cycle remonte. Nous sommes dans des sinusoïdes imbriqués, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez un cycle qui monte et quand il commence à descendre, il n'a pas atteint sa fin, que le nouveau cycle est déjà en train d'émerger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, il y a un croisement de ces logiques différentes, de ces nouveaux ordres mondiaux qui se fait en simultané. Et Marc Alevi, dans ses travaux, nous disait « Actuellement, nous sommes en plein de l'un de ces croisements. » Ray Dalio nous le confirme aussi. Mais quand je cite les travaux de Ray Dalio, lui, il parle d'ordre mondial. Et l'ordre mondial est défini par l'hégémonie d'une puissance. Et cette puissance est celle qui dirige le monde par ses choix, par sa politique, par sa puissance économique, financière, commerciale, militaire. Et donc, nous avons plusieurs cycles qui se sont imbriqués les uns derrière les autres, et lui fait un focus particulier sur les 3 derniers. Après les Espagnols, donc ça c'était avant les trois derniers, les Espagnols, l'époque, vous savez, la découverte des Amériques et compagnie, l'Espagne a eu quelques siècles de grande gloire, il y a eu le modèle ou le système, comment on va appeler, le nouvel ordre mondial hollandais. Rappelez-vous les tulipes, la crise des tulipes, rappelez-vous les luttes entre l'armada invincible, les luttes permanentes entre l'Espagne et la Hollande pour les territoires de Flandre et la domination des grands océans et tout ce que vous voulez. Et ensuite, bien évidemment, les Hollandais, ils ont pris le dessus. Et derrière les Hollandais, que s'est-il passé? Ce sont les Anglais, le royaume où le soleil ne se couche jamais. C'est la Commonwealth, c'était le royaume de la reine d'Angleterre. Ils ont dominé le monde, ces hommes-là aussi. Et suite à ça, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et le nouvel ordre mondial a basculé vers une hégémonie américaine. Bien, jusque-là, on a vu tout ça dans nos cours d'histoire que nous étions à l'école. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que Ray Dalio s'intéresse aux données purement économiques qui influencent la grandeur d'un cycle et son déclin. Et donc, il y a tout d'abord une phase de paix. Une phase de paix et de prospérité où on cherche à trouver de nouvelles idées. Cette prospérité favorise l'esprit entrepreneurial. Ça crée une phase extrêmement productive, disruptive, où la dette qui est générée sert à financer la croissance. C'est une source de frénésie économique et financière, mais aussi politique, mais aussi démographique. C'est un monde d'opportunités. On pourrait imaginer cette frénésie-là avec la conquête, imaginer ou comparer cette frénésie-là avec la conquête de l'Ouest, où absolument tout était possible. C'était un énorme chaos, un grand n'importe quoi, cette conquête de l'Ouest, mais tout était possible pour quiconque eût voulu saisir cette opportunité. Nous sommes dans une époque comme celle-là, où il suffit de tendre le bras pour cueillir des fruits mûrs. Et ça, c'est la phase de croissance. Ainsi, il commence à se créer des bulles de dette dans la deuxième phase de croissance. La dette commence à s'accumuler puisque elle génère des opportunités et c'est QFD. Je dépense de l'argent, j'en fais plus. Donc, étant donné que dans mon processus, j'allais utiliser le terme, dans mon tunnel de vente, je fais rentrer une certaine quantité et ce qu'il en ressort derrière, bien distillé, c'est une quantité supérieure, c'est QFD, plus j'ai d'argent, plus je vais faire d'argent. Donc, le meilleur recours à l'argent, c'est la dette. Donc, il y a une dette, une bulle de dette qui commence. Mais à côté de ça, les courageux de cette phase-là, c'est-à-dire les entrepreneurs, les leaders de cette démarche-là, les esprits les plus éveillés en termes d'intelligence monétaire, économique et financière, sont ceux qui, on dirait en espagnol, se llevan el gato al agua. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi les Espagnols, quand ils remportent la grosse mise, ils sautent à l'eau avec un chat. Parfois, les intrications de ma langue natale m'échappe. Excusez-moi pour cette divergence hispano-hispanique. Oui, donc pourquoi il se jetait? Ah oui. Excusez-moi, petite parenthèse, j'ai presque fait un gros flop parce que j'ai presque failli oublier ce que je voulais dire. Mais non, je n'ai pas oublié, je suis de retour avec mon argumentaire. Les personnes qui avaient le plus grand esprit entrepreneur, celles qui avaient cette intelligence financière et économique, qu'est-ce qu'elles ont généré? Beaucoup d'argent. Et quand elles font alors, elles ont créé un énorme gap de richesse. C'est-à-dire que les différences de revenus commencent à être de plus en plus marquées. C'est-à-dire qu'il y a des riches qui sont devenus très riches. Il y a ce que l'on pourrait appeler une classe moyenne qui elle-même a profité de cet élan-là, puisque la richesse elle a quand même été redistribuée en salaire, etc., etc. Mais tous ceux qui ont généré en amont, ces opportunités-là sont devenues les grands gagnants. Si on parle des États-Unis, on parlait du Far West, on est en train de parler de ces Ford, de ces Carnegie, de toutes ces personnes-là qui, à la grande époque de la croissance du cycle américain, ont investi dans l'acier, ont investi dans les voitures, ont investi dans l'électricité, ont investi dans tout ce genre de choses, et ce sont devenues les plus grandes fortunes. Encore certaines de ces familles, à la Rockefeller et compagnie, sont encore aujourd'hui à la tête des plus grands systèmes financiers au monde et des plus grandes sociétés financière au monde, c'est-à-dire leur hégémonie perdure encore aujourd'hui. Donc, ces personnes-là créent à travers leur succès, non pas ces personnes-là, pardon, ces entrepreneurs-là créent des disparités économiques et les grands gagnants s'affichent avec des différences monumentales de revenus par rapport à ce qui est le Pékin moyen dont j'en parlais tout à l'heure, qui lui a profité de cette phase de croissance, mais ayant un esprit entrepreneur moins avisé, ben, il a développé de la richesse, mais pas tant que ça. Et tous ceux ensuite, je mets des guillemets, les oubliés du système, c'est-à-dire tous ceux qui ont subi le système, qui n'ont pas su prendre le coche et que tout simplement ben, l'ont subi, mais ceux-là, ils se retrouvent dans l'équipe, et je mets des guillemets parce que c'est un terme un peu à l'ancienne, des perdants, et eux, ben, ils ne gagnent pas bien leur vie, je veux dire. Il y a vraiment une différence de revenus importante, et aux États-Unis, on pourrait à cette époque-là focaliser sur certaines populations, comme par exemple les populations afro-américaines, qui, elles, ont vécu ce qu'elles ont vécu dans ce pays-là, et ils ont été comme des laissés pour compte, et se sont retrouvés à peupler une grande partie du groupement de population qui n'a pas pu profiter de cette explosion de richesse aux États-Unis. Bon, je raconte tout ça, c'est peut-être parfois des raccourcis, mais ça illustre parfaitement comment ces différences, ces divergences de revenus s'opèrent dans une phase d'énorme croissance. Sauf que dans ces phases-là, cette frénésie dont je parle, elle crée une sorte d'hyperactivité extrêmement stimulée et positive qui fait qu'on est porté par ça. On est complètement porté. Et c'est à ce moment-là, sans trop savoir, qu'il y a un point d'inflexion qui s'opère. Et ce point d'inflexion commence à être quand la dette commence à être trop lourde. En fin de compte, la croissance, elle s'est estompée. Et finalement, là où avant il suffisait de mettre un dollar pour en sortir un dollar 10, un dollar 15, un dollar 20, aujourd'hui tu mets un dollar et t'en sors peut-être un dollar 0,1, 0,2. C'est-à-dire qu'il faut commencer à être beaucoup plus bon, il faut commencer à être beaucoup plus affiné dans la qualité de ce que tu vas faire pour générer de la marge et du résultat. Donc forcément, il y a une énorme hécatombe. Une énorme hécatombe. Pourquoi ? Parce que en période de croissance, on se gave. On se gave. Mais il faut pas être très intelligent quand t'es juste au bon endroit au bon moment. Les gars, être au bon endroit au bon moment dans une période de très forte croissance ne fait pas de nous des grands dirigeants d'entreprise. Moi-même, je l'ai vécu. J'étais au bon endroit au bon moment pendant toute la moitié de ma carrière dans une industrie, celle de la glisse, qui était dans une croissance extraordinaire à deux chiffres, 30% de croissance par an pendant 20 ans. À un moment donné, quand tu es dans ce contexte-là, tu oublies ce que c'est que de réfléchir. Parce que peu importe ce que tu fais, le marché vit un tel déploiement frénétique que tout se vend, tout fonctionne, plus ou moins bien, mais tout fonctionne. Donc quand les choses commencent à être difficiles, il y a une intelligence qui est perdue. Et aujourd'hui, dans le monde des startups, beaucoup sont en train de subir ça. Parce que ce début de déclin, même dans le monde digital, il est en train de se passer actuellement. Et là, je fais une petite parenthèse. Il y a 5, 6 ans, 7 ans, avec 10 euros, vous étiez capable de faire de la magie avec les réseaux sociaux en termes de vente. Des gens qui ont fait des millions grâce à ça. Aujourd'hui, divers changements, divers et variés, il est extrêmement cher d'arriver au même résultat et il faut être extrêmement bon et créatif pour dégager une marge. C'est fini l'époque où il suffit d'appuyer un bouton pour se gaver sur Internet. Donc, nous sommes dans ce point d'inflexion où maintenant une intelligence commence à s'imposer. Et c'est là l'hécatombe. L'hécatombe de tous ces mecs qui étaient au bon endroit, au bon moment, qui ne passaient plus les portes, qui se croyaient être des très grands dirigeants d'entreprise, et quand au moment de devoir réellement se poser des questions, il ne savait pas se les poser. Et donc la seule réponse qu'il avait à ça était celle-ci. Attendons de voir. On va continuer à faire tout ce que l'on fait, comme on l'a toujours fait, et on verra, ça devra marcher. C'est juste un petit coup du destin. C'est-à-dire, nous avons un modèle A qui ne marche plus. On va essayer de l'optimiser, c'est-à-dire qu'on va en faire un modèle B, pardon, un modèle A'. On l'a juste optimisé, mais à leur grand dain, ils finissent par se rendre compte que le A', double prime ou triple prime ne marche plus. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est l'hécatombe. Ils finissent par mettre la clé sous la porte. Et c'est là que nous sommes en train de commencer la descente. C'est que les premiers perdants de toute cette phase-là sont les moins préparés. Je ne vais pas dire les moins intelligents, les moins préparés. Parce que le confort de la croissance et du succès fait qu'à un certain moment, on oublie de se préparer. Mais tout change. Et donc, les premières pertes de cette hécatombe dont je parle font rentrer dans un début de déclin économique. Face à ce déclin économique, on a le poids de la dette. Je me suis surendetté pendant des années parce que ça marchait super bien, jusqu'à un tel point que la dette est devenue partie prenante de mon business. Sauf que la dette a atteint une certaine masse, et qu'il est nécessaire que je génère des marges suffisantes et des résultats suffisants pour pouvoir justifier cette dette-là. Sauf que quand les ventes diminuent, et c'est ce qui nous pend au nez, puisque PGE et tout ce qui va avec, on était tous bien contents de créer des entreprises zombies. Maintenant, on va voir comment on va faire pour se sortir de ça, parce que le poids de la dette dans beaucoup d'entreprises va devenir trop important. Donc, que se passe-t-il ? Poids de la dette étant très grand, baisse des résultats, le poids relatif de la dette devient beaucoup plus important, et tout ça, ça nous explose à la gueule. Et on se retrouve alors dans une situation globale qui dévalorise et le bilan des entreprises et le bilan des banques. Et donc, que se passe-t-il ? On voit cette baisse de l'activité économique et donc on commence à faire des actions interventionnistes pour pouvoir assurer un peu de reprise de l'économie. Et donc, entre autres, ce que l'on fait, on vient favoriser la circulation de la monnaie, on génère de la monnaie et on vient favoriser l'accès au crédit. Tout ça, rassemblé, ne fait que augmenter la taille du problème. Et on continue à imprimer de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas vous faire un dessin pour faire la corrélation entre ce que nous avons vécu depuis mars 2020 et, je me permettrai même de dire, depuis septembre 2019. Car les habitués de cette chaîne, vous savez désormais que la première crise bancaire monumentale a eu lieu en septembre 2019. Et que la crise sanitaire, bien, elle a eu bon dos à beaucoup d'égards pour assainir ce qui aurait été, outre l'avènement de la crise sanitaire, une deuxième crise globale financière équivalente à celle des subprimes. Bref, je ferme la parenthèse, je pense qu'il ne faut pas faire un dessin pour faire la corrélation entre cette phase du cycle et l'affolement de la planche à billets que nous vivons depuis un certain temps. Et donc, à travers cette crise du crédit et cette impression monumentale d'argent, nous rentrons dans la phase suivante du déclin, ce sont les dernières phases, celles qui, quand je faisais les épisodes, n'était pas encore arrivé et je me disais, est-ce que nous, en tant qu'humanité, on aura la conscience pour éviter l'inéluctable qui s'est répété inlassablement durant toute l'histoire de l'humanité, c'est l'étape suivante dont je vais vous parler, la guerre ou la révolution. Alors, je pense que la révolution, on est passé à côté. Je me demandais à un moment donné s'il n'y aurait pas un élan de révolution en France, qui est le pays des révolutions, avec des mouvements comme les Gilets jaunes et tout ça. Et avec tout ce qui est en train de se passer, je me disais ça va exploser. Pourtant, non. Rien n'a explosé. Et donc, on se retrouve dans un contexte que finalement, je pense que la notion de révolution, aujourd'hui, le poids de notre confort est devenu trop important. Et tant que tu ne touches pas à mon compte Netflix et aux bières que je peux boire avec les potes le samedi soir, tu peux faire ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, je pense que ces élans révolutionnaires qui alimentaient un peu la passion de nos aïeux n'existent plus. Et donc, s'ils existaient, ils ont un vitrier suffisamment étouffé pour qu'ils ne s'expriment plus comme en temps. Donc, le risque de révolution, je pense qu'il reste relativement mesuré. Même si nous avons des initiatives populaires comme ce qui s'est passé au Canada, on en a très 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 peu parlé en Europe, mais c'est cette les Freedom Tracks, c'était les routiers canadiens qui ont été ralliés par les routiers américains et qui ont littéralement bloqué la capitale du pays, littéralement bloqué le système à un tel point que le premier ministre, il a pris un hélicoptère, il a disparu avec ses familles. Il s'est cassé le mec. Donc, Dutrot. Donc, ça c'est un mouvement révolutionnaire pacifique qui a effectivement eu lieu. Mais là où nous en sommes, c'est que c'est des révolutions ou et des guerres. Et la guerre, nous y sommes presque. Et c'est là le dernier point que je disais, le dernier qui reste pour arriver à bien s'écraser comme une est présenté dans le Changing World Order de Ray Dalio, c'est la guerre. Et aujourd'hui, Poutine, il nous amène sur ce chemin-là. Mais je dirais, est-ce que c'est Poutine qui nous amène dans ce jeu-là, ou c'est un jeu géopolitique extrêmement complexe, où des forces s'opposent dans une notion de changement d'ordre mondial? Parce que l'étape suivante, quand tout a été détruit, le nouveau cycle recommencera à une nouvelle dette, une restructuration politique. Donc on parle de restructuration politique, par exemple, quand il y a eu les accords de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu les alliés qui ont défini la nouvelle répartition de l'Europe. Ça, c'est une restructuration politique. Ok. Donc, une fois qu'on a tout détruit, on recrée de la dette pour financer une nouvelle la reconstruction, et dans cette reconstruction, les gagnants définissent un nouvel ordre politique. Voilà. Et c'est là que, avec ce nouvel ordre politique, naît un nouvel ordre mondial. CQFD, le cycle est complet. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste, c'est que, et si, tout simplement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la confrontation de nouveaux ordres mondiaux. Car si on dézoome et on oublie l'Ukraine, on dézoome et on voit l'hégémonie aujourd'hui américaine sur l'ordre mondial avec lequel nous vivons, qui a un déclin absolu et total si l'on suit la courbe dont parle Ray Dalio, et il le décrit parfaitement bien dans son livre. Donc on a ce système-là qui est en déclin. Et face à ça, nous avons d'autres puissances qui, à travers le regard de Ray Dalio, sont des puissances économiques, militaires, commerciales et financières. Cherchez pas à comprendre. La Chine, la Russie, et ensuite, derrière, l'Inde et l'Afrique. Sauf que le problème que nous avons, c'est que si l'histoire se répète, ça veut dire que les États-Unis arrivent au bout. Et vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Jamais de la vie. Ils veulent garder leur position. Et ils vont donner du fil à retordre, d'où les conflits. Je ne suis pas en train de dire, écoutez bien, je ne suis pas en train de dire, et je ne me permettrai jamais de le dire, que la responsabilité de ce qui se passe actuellement est américaine. Loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est la résultante de deux blocs, de nouveaux ordres mondiaux qui s'opposent. Il y en a un émergent et il y en a un autre en déclin. Mais ils sont au point de croisement où leurs forces sont égales. Et donc, il est très difficile de savoir qui est le gagnant, qui est le perdant, qui est le plus fort, qui est le moins fort. Ils sont à forces égales. Parce qu'il y en a un qui en baisse de force, il y en a un qui est en croissance de force, et ils sont au point de croisement des deux courbes. Donc là, leurs forces sont égales. Il est très difficile de départager qui sera le gagnant ou le perdant de cette guerre politico-économique et militaire avec la Russie. C'est très très difficile. Vous tirez d'un côté, l'Europe s'effondre. L'Allemagne, tu enlèves le gaz russe, ils sont foutus. Ils sont foutus. 40% de la consommation de gaz en Europe est russe. À l'inverse, on a bloqué tous les comptes de la Russie en dehors de la Russie. Ils ont foutu en l'air la richesse de beaucoup d'oligarques et une très grande partie de la richesse du pays. Parce qu'ils ne peuvent plus accéder à cet argent-là. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais si on observe le changement d'ordre mondial comme logique, vous avez un ordre mondial en déclin qui s'affronte à un autre. Et quand vous voyez, les plus grands partenaires de la Russie sont l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, dans les données que je vous ai décrites du cycle de croissance c'est-à-dire paix, prostérité, dette pour le financement de la croissance, les écarts de revenus, les bulles de dette, toutes ces choses-là qui font partie de la première partie de la courbe, c'est ce que vivent les Chinois actuellement. C'est parfaitement documenté, c'est-à-dire qu'on a une puissance économique. Et aujourd'hui, on commence à se demander qui est la vraie première puissance économique au monde. La Chine pourrait avoir dépassé les États-Unis. Du coup, on est face à des confrontations d'ordre, de nouveaux ordres mondiaux. Donc, la confrontation qu'il y a eu dans la guerre froide entre les États-Unis et les Amériques n'a plus lieu d'être actuellement que dans la confrontation d'une façon beaucoup plus globalisée entre le bloc d'un nouvel ordre mondial émergent, la Chine, ralliée depuis toujours à la Russie, et derrière, ceci est extrêmement important, l'un des principaux clients de la Russie est l'Inde, et l'un des principaux clients de la Chine est l'Afrique. Sauf que l'Inde et l'Afrique sont les futurs de notre humanité en termes de jeunesse, en termes de dynamique. Ils ne sont pas encore prêts pour vivre un nouveau cycle, ce qui laisse vaticiner qu'il y aura d'abord un premier cycle chinois, et ensuite qui sera accompagné d'un autre cycle qui sera, lui, africain et ou indien. La population mondiale est là-dedans, les ressources sont là-dedans. Nous, pauvres Européens occidentaux, nous sommes avec des pyramides démographiques qui vieillissent, notre futur est derrière. Donc, quand on voit les cycles de Ray Dalio, aujourd'hui, tout s'est déjà produit. La seule chose qui nous reste à éviter, c'est une guerre mondiale. Une guerre mondiale qui, comme le dit Poutine, personne ne se relèvera. Et le plus flippant, c'est qu'elle, elle ne fait pas peur à Poutine. Ses menaces sont extrêmement claires, et quand tu vois comment il traite les propres membres de son gouvernement, là, il y a de quoi flipper. Mais en face, je crois que ce ne sont pas des tendres non plus. Et nous avons l'histoire qui nous confirme que les États-Unis se sont permis des choses complètement dingues durant toute la durée de leur cycle de croissance. Il existe pléthore de films de la CIA et de tout ce qui va avec pour indiquer aussi que, bon, c'est pas jamais tout rose. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a raison, qui est tort, et je ne suis pas bien placé pour parler de ça. Je n'ai pas les connaissances suffisantes et je serai un Pékin moyen dans un PMU qui donne son avis. Donc, je ne donne pas mon avis. Ce que je vois, c'est qu'il y a une confrontation d'ordre mondiaux. Et que ce qui s'opère aujourd'hui, en direct, dans nos sociétés, c'est la restructuration de ces dernières dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Et j'ai du mal à croire que ceci n'est pas quelque chose qui est déjà en train de se préparer. Parce que tout bon gestionnaire de bon sens, c'est ce qu'il ferait. Et vous qui m'écoutez, dirigeants d'entreprise et leaders, c'est ce que vous feriez aussi. Donc, s'il y a un changement d'ordre mondial, si ce changement est tel que nous le présente Ray Dalio, tel que l'histoire le confirme, forcément, il y a des changements qui doivent s'opérer pour préparer la suite. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est le début d'une table rase pour nous aider à revivre dans un nouvel ordre. La grosse question qui nous reste, c'est quelle gueule va avoir ce nouvel ordre. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet épisode, après avoir fait un tour d'horizon du fabuleux livre « Principles for Dealing with a Changing World Order, Why Nations Succeed and Fail » by Ray Dalio. Principe pour faire face au changement d'ordre mondial ou pourquoi les nations gagnent ou perdent, par Ray Dalio. Et grâce à ce livre, nous avons pu faire un tour à travers une courbe de Gauss, d'analyse historique, de confrontation des différents ordres mondiaux qui ont populé notre histoire, en passant rapidement par les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, puis actuellement les Américains, qui clôturent un cycle qui a commencé avec leur hégémonie, suivie d'une phase de paix, de prospérité, de productivité et de croissance de la dette, qui est arrivée en haut de la courbe de Gauss avec une phase de bulle de dette et accroissement des inégalités, qui ensuite, on a commencé la phase descendante de la bulle, de la courbe, pardon, après un point d'inflexion, qui nous a amené à une explosion de la dette et un ralentissement de la croissance, qui ensuite a été suivi dans la descente vers un emballement de la machine à billets et du recours au crédit. Ensuite, on est sur le point de s'éclater les dents en bas, une phase de révolution et de guerre. Et pour finir, une nouvelle phase de dette, de restructuration politique qui donne la bienvenue à un nouvel ordre mondial. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les points de la checklist remplis. Il ne nous reste, espérons que ceci n'arrivera jamais, que l'avènement d'un énorme conflit pour confirmer la justesse des cycles répétitifs de l'histoire que j'appelle notre cul de sac karmique. Et c'est pour ça, chers amis, que nous ne pourrons pas faire l'économie d'une crise de notre leadership. Quelle aura été notre contribution à l'émergence d'un nouvel ordre mondial? Parce que nous aurons tous contribué avec des actions concrètes ou avec de l'inaction concrète. Mais les deux sont une contribution. On va avoir à se positionner, consciemment ou inconsciemment, pour alimenter quelque chose. Et ce quelque chose sera le nouvel ordre mondial dans lequel nous allons nous inscrire. Donc la question qui me reste, vous êtes au service de quoi? Qu'est-ce qui vous anime réellement? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Et comment justifiez-vous votre engagement aujourd'hui? Parce que demain, on ne pourra pas faire l'économie d'un bilan. Comme dans toute période d'après-cycle, comme dans toute période d'après-guerre, il y a toujours un moment des bilans. Et aujourd'hui, si moi j'ai fermé ma gueule pendant 5 mois, c'est que je ne savais pas répondre à toutes ces questions-là. Et donc, plutôt que de parler sans être pleinement clair dans ma tête, j'ai fermé ma gueule. Et je me suis replié sur moi-même, je me suis mis en mouvement, je me suis mis en action, j'ai commencé à contribuer dans ma vie, dans ma communauté, pour donner du sens concret, dans la matérialisation concrète de mon mouvement, pour essayer au moins de comprendre quelle était ma place dans mon nouveau monde. Parce que notre nouveau monde, il a déjà émergé. 2 ans de crise sanitaire ont changé radicalement notre monde. Quelle est votre place dans ce monde-là? Quelle est votre contribution à ce qui est en train d'émerger? Ce choix s'opère maintenant, pas demain. Une certitude, c'est que demain, il y aura des héros improvisés. Ils se diront des héros de l'époque, de la grande époque. Ce que c'est clair aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Il n'y a ni des héros, ni des gagnants, ni des perdants. Il y a une énorme feuille blanche à remplir. Mais il va y avoir 2 types de personnes. Celles qui vont se lever pour écrire les lignes qui vont faire le nouveau chapitre de notre histoire, et celles qui vont juste le laisser écrire, et qui, sans le savoir, vont pousser l'un des crayons, sans réellement savoir lequel. Pour tous, sans exception, l'heure du bilan viendra. Et celui-là, il nous appartient à tous. Et il a une certaine tonalité de crise de leadership. À moins que on fasse les bons choix, conscients, incarnés et éclairés. Le moment est venu de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.